La garçonne, deuxième partie, chapitre 5. Elle ne fut plus dès lors qu'un instant lâchée. Toutes les heures coulèrent, également mornes dans leur variété. Monique s'agitait dans une sorte de nuit morale. L'énergie qui la poussait à vivre n'était plus assez forte pour la guider dans sa dérive. Après le rétablissement qu'elle était parvenue à faire, c'était de nouveau la chute, et cette fois, estimait-elle, irrémédiable. Réagir, dans quel but? Elle ne croyait plus à rien. Cet obscur sentiment de la lumière qui est au fond de tous les êtres et qui subsistait en elle, parmi les ténèbres de l'inconscient, la soulevait pourtant encore à son insu, au-dessus de la boue où, sans regret et sans remords, elle le croyait enfoncé définitivement. Monique restait, malgré elle, de ces natures si foncièrement droites qu'un coup de barre les peut redresser, à l'instant où il semble qu'elles chavirent. Mais de cette conviction, seuls étaient pénétrés les deux êtres qui la connaissaient bien et qui avaient gardé pour elle un peu de l'affection portée à la tante Sylvestre. Madame Ambra et le professeur Vignabos avaient vu avec peine Monique s'éloigner d'eux, espacer les occasions de rencontre. Mais après un dernier déjeuner rue de la Boétie, où elle avait, dans un élan soudain d'expansion, vidé la poche à fiel, ils avaient fini par en prendre mélancoliquement leur parti. Elle-même, depuis, avait senti un besoin de fuir leurs visages attristés, parce que clairvoyant. Le jugement de ses vieux amis n'avait pas eu besoin d'être formulé. Elle en devinait le reproche, d'autant plus sensible à son amour-propre qu'il lui rappelait, avec le souvenir de la disparue, les bons et les mauvais jours passés. Jamais plus maintenant elle ne se retournait vers ce cimetière. Elle vivait uniquement le présent, changement d'ailleurs apprécié par la plupart. Elle s'était mise à l'unisson, roulée à niveau de leur bassesse. Boire, manger, dormir, et pour compléter le programme des réjouissances, tout ce qu'hommes et femmes ont imaginé dans le possible des plaisirs et des vices. Elle devient bonne fille, disait-on d'elle. Vous valez mieux que ça, lui avait dit Madame Ambra un jour qu'elle s'était malgré tout décidée à entrer, en passant devant les fastueuses vitrines, maintenant livrées au seul goût, d'ailleurs raffiné, de Mademoiselle Claire. Celle-ci avait pris la direction effective de la partie artistique. Monique s'en remettait à elle jusque du soin de faire établir, après indication sommaire, toutes les grandes décorations. Monsieur Angibault, chef de la partie commerciale, assurait devises et recouvrements. Debout devant Madame Ambra, dans le petit salon de réception, Monique, qui à 2 heures de l'après-midi venait de se lever, répétait en soupirant. « Mais non, je vous assure, c'est même amusant au fond cette existence-là. Je l'avais prise au tragique et puis au sérieux. J'avais tort, c'est une farce. En se plaçant au point de vue comique et surtout en n'exagérant rien, car rien au fond n'a d'importance, on peut très bien s'accommoder. C'est la sagesse, t'en fais pas. » Madame Ambra contempla tristement le teint plombé, les bras pendants. « Quelle sagesse » murmura-t-elle. « C'est la meilleure. Et c'est une femme qui parle. C'est vous, Monique. Bien sûr. Pourquoi une femme qui n'a ni mari ni enfant, qui n'a même pas de parents, car les miens, s'embarrasserait-elle de scrupules que les hommes n'ont pas? Il faut vous résigner à ce fait, chère madame. Chacun sa vie, et puis la mort pour tous. Et surtout, n'allez pas me plaindre, parce qu'en attendant, je mène une vie de garçon. » Madame Ambra esquissa un geste impuissant. Il y aurait eu trop à dire. Elle avait embrassé Monique avec tendresse, car elle avait malgré tout froid en elle, puis était repartie, toujours courante. C'était une de ces maigres quadragénaires, sans âge et presque sans sexe, qui, n'ayant jamais été mère, se voue de tout l'élan féminin insatisfait au trompe-cœur de l'éducation. L'habitude de professer lui avait donné une autorité un peu sèche, sous laquelle une sensibilité ardente couvait. Monique, en bâillant, écoutait les explications que lui donnait Mademoiselle Claire. Le baron Plombineau était enchanté de son nouveau fumoir, en érable veiné et velours cendre. Il présentait ses hommages à Mademoiselle. Les maquettes des décors pour la nouvelle pièce de Fernand Dussol seraient prêtes ce soir. Madame Huthier avait déjà téléphoné deux fois. Elle redemanderait la communication un peu plus tard. « C'est bien, merci Claire. » Monique étouffa un nouveau bâillement. Rien ne l'intéressait plus. La journée s'étendit monotone au regard de son ennui. Elle le jeta, en s'arrêtant devant une glace qui reflétait un savant ébouli d'étoffe, croulante et cascadant en flots violets et or, un regard mécontent. Quels yeux ! Pas étonnant, après une nuit pareille. Elle l'avait passée tout entière à fumer, seule avec Annika Grobroni. Heure délicieuse aux sens engourdis, mais qui lui laissait le lendemain, avec une sensation de vide, le dégoût de tout ce qui n'était pas l'oubli apaisant de la drogue. Heure de nirvana, coupée de longues causeries entre les pipes. Heure blanche où, toutes deux, fraternellement allongées de chaque côté du plateau, évoquaient d'interminables histoires sans aucune espèce d'intérêt. Potin misérable, reflétant la tonie du cercle où, lentement, s'enlisait, avec le talent de la grande violoniste qu'avait été Annika Gobroni, les jolis dons de l'artiste et de la femme en Monique. Elle tressaillit. L'appel impérieux du téléphone retentissait. Elle avait maintenant une phobie de ces sonneries brutales, comme d'une intrusion d'importun dans son marasme. Monsieur Angibault montra son visage carré de lorrain méthodique. « Madame Huthier, j'y vais. » Monique soupira. Les distractions que d'ordinaire lui proposait Ginette ne la divertissaient guère. Mais après tout, autant cela qu'autre chose. Elle s'était petit à petit laissée reprendre aux camaraderies d'autrefois. Hélène Suze et Michel d'Entraigues étaient, avec Madame Huthier et Ponette, redevenues de ses intimes. Même elle trouvait, à les revoir quotidiennement, un agrément qu'elle n'avait pas connu lorsque, contrastant du tout au tout avec leur mentalité, elle aurait prouvé cette volerie et cette corruption dont, imprégnée elle-même aujourd'hui, elle partageait l'habitude. Un peu de mélancolie, irraisonnée mais douce, l'ajoutait à ses amitiés qui l'engluaient comme un fond de vase. Rappels inconscients du passé. L'image de la Monique qu'elle avait été au jour de l'illusion quand elle appareillait vers le bel avenir. Elle écoutait le récepteur à l'oreille et soudain sourit d'un air ambigu. « Non, impossible ce soir. Je dîne avec Zabeth et je dois la mener ensuite chez Annika. » « Oui, elle n'a jamais fumé, ça l'amuse. » « Justement, la lucidité, le détachement d'esprit que cela donne, cela va très bien avec la théosophie. » Oui, et avec le spiritisme, on voit double. Eh bien, chérie, puisque tu y tiens tant, voilà ce qu'on pourrait faire. Passez nous prendre après dîner. Où ? Au restaurant indien, vous savez, à Montmartre. Oui, c'est cela. Ensuite, on verra. Après tout, elle sera peut-être enchantée. L'éducation se complète à tout âge. C'est ça. Au revoir, chérie. Elle raccrocha. À ses yeux-là, l'étincelle que la proposition vicieuse avait allumée s'éteignit. Monique promena un regard d'ombre sur le petit salon où naguère elle aimait à travailler entre les visites. Les dessins inachevés gisaient sous l'abattant du bureau Louis XV fermé. La pièce lui parut vide, vide comme la journée qui s'annonçait, vide comme l'existence. Alors, bâillant plus fort, elle sonna. Mademoiselle Tcherbaliev montra son visage de slave volontaire aux yeux d'acier. « Je remonte, Claire, ne me demandez pas. Je vais sortir jusqu'au dîner. » « Mais le rendez-vous avec Mademoiselle Marnier ?» La dogaresse amatrice, ayant troqué son argentier belge et son appartement rue de Lisbonne contre un businessman américain et un hôtel avenue Friedland, renouvelait entièrement son mobilier. « Vous lui direz ce que vous voudrez. J'approuve tout d'avance. Bonsoir. » Elle regagnait d'un pas traînant son entresol où, depuis Pierre-Risse, le député, l'ingénieur et le peintre, aucun homme n'avait pénétré. La consultation du docteur Hilbourg l'avait guérie des liaisons inutiles. Menant, comme elle l'avait dit à Madame Ambra, la vie de garçon, garçonnière comprise, elle couchait au hasard de l'aventure. Le plus souvent dans les deux petites pièces qu'à double fin, elle avait aménagées à Montmartre. Au sortir des music-halls et des boîtes de nuit, où de nouveau elle se montrait assidue, c'était commode, cette salle de bain et ce salon, meublés seulement d'un immense divan. Tremplin propice aux rêves toujours plus fréquents des fumeries et parfois aux réalisations d'exercices sexuels. Elle avait pris, de ses interminables séances chez Annika, le besoin d'avoir, en véritable opiomane, sa propre installation. Et, de ses fréquentations improvisées, généralement à trois ou à quatre, celui d'un champ de manœuvre suffisamment vaste. Elle s'étira, désœuvrée. Puis, ayant fermé ses volets au grand jour, elle se réétendit sur son lit défait. Les yeux clos, elle chercha longtemps le sommeil. Elle songeait, avec un dégoût fait aussi d'un remords, à la rue bruyante, au magasin où Claire et Angibault se multipliaient, au soleil dont la splendeur planait sur la fourmilière de la ville en pleine activité de labeur. Et, comme dans un coma, elle se sentit descendre, voluptueusement, à travers son néant. Elle ne s'éveilla qu'au soir tombant, avec le sentiment d'une journée encore gâchée. Mais qu'est-ce que cela faisait, maintenant que le jour pour elle ne commençait qu'avec la nuit? La nuit où, l'ivresse du stupéfiant aidant et l'imprévu des rencontres mouvementant un peu son éternel « à quoi bon ?», elle se figurait vivre intensément. Elle usait, au rythme mécanique de la toilette, d'interminables instants, s'attardait à des choix et à des combinaisons de robes, elle jadis habillée, et si vite d'un rien. Futilité qui l'amenait à 9 heures, où, généralement, elle dînait. Il en était 8, quand, entendant la sonnerie de la porte d'entrée, elle tint en suspens le doigt frotté de fard rose dont elle allait aviver ses pommettes. « Ça bête, déjà ? Zut, je suis en retard !»« Entre » cria-t-elle, comme la femme de chambre annonçait Lady Springfield. Avec une émotion fugitive, elle voyait dans son miroir, comme du fond soudain ressuscité de sa jeunesse, apparaître sa grande amie d'autrefois. Longue et flexible, une liane brune, Lady Springfield, en dépit d'une robe généreusement échancrée, avait si peu changé que Monique crut revoir Elizabeth Mir. Le visage mat gardait cette expression volontaire, mais aussi un peu énigmatique, qui faisait dire à tante Sylvestre « Elisabeth, c'est une dalle sur un secret. » Monique, sans se retourner, tentit le coup. « Embrasse-moi, mais ne me mets pas de rouge. » Elisabeth rit. « Le mien est sec, il ne tâche pas. Tu n'as pas honte, encore en chemise ?» Monique posa lentement la dernière touche, une nuance de bleu au coin de la paupière. « Là, je suis prête, j'ai mes bas. » Elle se leva, vêtue seulement d'une courte combinaison sous le kimono. Lady Springfield la contemplait, émerveillée. « Comme tu es devenue belle !» Elle ajouta, en rougissant, « Tu l'étais déjà. » Son regard, posé sur les seins de Monique, évoquait le soir trouble où, dans une atmosphère d'orage, poitrine nue, elles avaient comparé, comme la pomme et la poire, leur rondeur naissante. Instinctivement, l'Anglaise étendit la main, caressa dans leur corbeille de dentelle les beaux fruits qu'elle sentit frémir. En même temps, Monique, tandis que dans sa mémoire se réinstallait l'heure disparue, voyait sous le corsage de sa bête deux pointes surgir, tendant la soie légère. Alors elle rougit à son tour, les joues empourprées du même feu que son amie. Une vague honte la troublait. Cependant, la sensation lui avait été agréable, et ce fut d'une voix douce qu'elle murmura, instinctivement, les mêmes mots qu'elle avait proférés jadis, mais avec une autre intonation. « Fini, qu'est-ce qui te prend ?» Sa bête sourit si clairement que son volontaire visage n'eut cette fois plus rien d'énigmatique. Et Monique, amusée, déclara à son tour. « Tu n'as pas honte ?» Lady Springfield secoua délibérément la tête. Non, elle n'avait pas honte. Et pourquoi aurait-elle honte ? Son mari était trop occupé des affaires de l'État pour prendre souci des sentiments. Il lui avait fait deux enfants comme il eût planté deux arbres. Leur éducation, la nurserie, pour l'instant, y pourvoyait. Ensuite, ce serait le collège. Quant au spiritisme, voire théosophique, il suffisait sans doute aux curiosités de l'esprit. Lady Springfield ne détestait pas les joies qui achevaient de prendre corps. Et quel corps plus plaisant que celui d'une jolie femme ? Entre toutes, celui de Monique, longtemps désiré, occupait dans ses souvenirs la première place, place réservée, d'autant plus précieuse. Gaiement, les deux amis dînaient seuls dans le petit restaurant indiqué à Ginette Huthier. Il était connu seulement de quelques initiés pour sa cuisine exotique. Pimentée de curry et de poivre rouge, elle leur fit mieux apprécier le frappage d'un champagne sec. Coup de fouet qui accéléra leur abandon. Elle se laissait aller au fou rire qui les secouait, comme de gamines. Lady Springfield, reprise par sa marotte, tentait de convertir, à ses croyances d'au-delà, Monique rebelle. Mais celle-ci, entre deux bouchées, protestait. « Non, non et non, tu as beau dire, nous ne sommes qu'un agrégat de cellules, une matière qui, à la longue, après des millénaires de perfectionnement, a produit l'âme comme la fleur produit le parfum. Mais l'âme et le parfum meurent tout entiers quand la matière s'est désagrégée. Oh, c'est sacrilège ! Non, c'est rationnel. Je ne crois pas à la survivance de l'esprit, excepté dans les formes que l'art et la science des vivants ont pu créer. Survivance, elle aussi, éphémère. Quant aux esprits, ah non, s'ils en avaient seulement un tout petit peu, ils ne s'exposeraient pas à revenir faire un tour dans cette sale vie. Ils resteraient où ils sont. » Elle montra une potée succulente que le garçon, un cingalais aux chignons tressés, apportait. « Tiens, dans les choux, mais il n'y a pas d'esprit. Il y a des forces inconnues sur lesquelles influe peut-être notre intelligence, comme elles influencent notre sensibilité. « Yes, des forces surnaturelles. Non, des forces naturelles. Nous ne les connaissons pas encore. On les analysera peut-être un jour. » Nous commençons bien à pénétrer seulement le mystère de la chaleur et de l'électricité. Et la télépathie, voyons, et les prémonitions, et la prophétie d'événements impossibles à prévoir. Ce sont des réalités scientifiquement démontrées. Et les photographies de corps fluidiques. Comment expliques-tu tout cela, à moins d'une intervention spirituelle, à la fois humaine et divine ? Indignée, Lady Springfield frappait la table de son couteau si vivement que le cingalais accourut. « Ah, l'esprit !» railla Monique. « La table a parlé !» Elle commanda, par contenance, une seconde bouteille de champagne. « Nous la boirons bien, va !»« Yes !» continua la spirite en souriant. « Et comme cela, ensuite, la table tournera toute seule. »« Non, je ne suis pas naïve au point de tout croire !» Mais je pense véritablement que nos âmes ne meurent pas en même temps que le corps. Leur essence astrale est éparse dans l'infini, jusqu'à ce qu'elle se réincarne sous d'autres formes. Ainsi, il y a un rythme de vie universel dont l'harmonie est conforme à la justice de Dieu. La conviction faisait trembler sa voix et lui rendait d'un coup un léger accent. « Dieu !» s'écria Monique, qu'amusait cette phraséologie chez une matérialiste aussi déterminée. « Quel Dieu ? Celui des armées, peut-être ? Alors quelle peau jugera-t-il assez douce pour y enfermer un Guillaume II, par exemple ? Tu me fais rire avec ton immortalité et ta métempsychose. » Elle s'animait à son tour. La vanité de vivre résonna, sourdement, sous le voile des mots. Autour et au-delà de nous, avant et après tout, il y a la nuit de la matière. Nos étincelles d'une seconde y jettent, avant de disparaître, leurs éclairs de feu follet, voilà tout. En attendant, mon est lui. Elle se poudra vivement. Mais Lady Springfield, lasse de philosopher, avait tiré une cigarette d'Orient d'un large étui d'argent plat. Le Cingalais, attentif, présentait la flamme d'un briquet. « Merci. » Elle regarda Monique avec une attention tendre. « Chérie, tu me fais de la peine. Sous ta gaieté, je sens qu'il y a plus de tristesse. Oui, j'étais sûre. Découragée ? Pourquoi ? Ça, ce n'est pas rationnel. » Monique haussa les épaules en tendant sa coupe. « La vie, ne parlons pas de cela. Il y a des gens qui se noient dans un crachat. J'aime mieux le champagne. » Elle vida la rasade d'un trait. Sa bête, avançant sa chaise, emprisonna entre ses genoux les jambes étendues. Et tu ne vois qu'Aline. Les hommes n'entendent rien au bonheur des femmes. Ils ne se sont jamais intéressés qu'aux leurs. Ça dépend, dit Monique. Hier, Ginette me disait le contraire, en parlant de son mari. L'anglaise s'écria, sincère. Oh, celui-là, c'est un cochon! La réputation de M. Huthier, thème ordinaire de facétie dans les journaux satiriques, avait passé, avec les frontières de Maxims et d'Irène, celle de la Manche. Lord Springfield, trompé par l'apparence chafouine du ministre, qu'il avait rencontré à la dernière conférence interalliée, n'y pouvait croire. Mais Milady, mieux documentée, ne conservait aucun doute. Ayant un jour été surprise dans ses propres effusions avec Ginette par M. Huthier. En guise de réparation, il avait exigé, pour sa satisfaction solitaire, qu'elle continuasse. « Tu vas la voir, d'ailleurs, » fit Monique. « Elle vient nous chercher. Tiens, la voilà. » La ministresse montrait, dans l'entrebâillement de la porte, sa mine futée de brune hardie. Les deux amis lui faisaient signe. Imposante dans son manteau du soir, Ginette traversait avec autorité le restaurant. Il n'y avait plus, hors la patronne jouant aux cartes avec une amie à petit chien, que le Cingalais anachronique. Sans que le moindre étonnement parût sur sa face de bronze, il reconnut en Madame Huthier la demoiselle qui, accompagnée d'une autre jeune fille et d'un monsieur élégant, l'avait autrefois, un jour qu'il avait congé, enlevé au thé d'Onou, où il servait. Le regard équivoque et le rire muet du Cingalais rappelèrent en même temps à Ginette la scène qui s'était passée ensuite, précisément dans l'atelier de Cécile Mir. Le grand diable noir sodomisant celui-ci, tandis qu'elle-même et Michel d'Entraigues leur servaient de témoins et d'aide. Elle adressa, sans broncher, un clin d'œil objurgateur à l'homme et, rapidement, proposa de filer. Les autres attendaient dans l'auto. Lady Springfield s'enquérait. « Qui ? Max Delhomme et Michel ? Où va-t-on ? » Ginette mit un doigt sur ses lèvres. « Tu verras bien ?» Elle eut un sourire engageant. Elle évoquait, après une heure au Music Hall, un groupement nouveau. Zabeth remplaçant son frère, et Max, le Cingalais. Elle n'allait pas jusqu'à la distribution des rôles, laissant une part d'autant plus large à l'imprévu qu'elle avait résolu, d'accord avec son mari, sa propre liberté étant à ce prix, d'inaugurer ce soir un nouveau théâtre d'exploits. L'ex-ministre, car depuis le souper chez Annika, le cabinet Pertoux avait été renversé, assistait ou n'assistait pas à ces petites fêtes. mais dans ce dernier cas, il exigeait toujours un compte-rendu fidèle. À défaut de l'excitation des visous, un récit détaillé lui était devenu nécessaire pour le mettre en état d'être ensuite flagellé avec fruit chez cette bonne Irène. Monsieur Huthier, lumière du progressisme, méritait ainsi sa réputation de cérébral. Dans le fond, ordonna Ginette en poussant Lady Springfield, tandis que Max Delhomme se levait pour saluer. « Rasseyez-vous, Max. Michel, sur vos genoux. Et Monique, sur ceux de Zabeth. Là, moi, au milieu. » Elle jeta l'adresse. Et comme Lady Springfield observait, « Et Annika qui nous attend ?» Michel déclara. « Pensez-vous, Annika ? Pour elle, il n'y a plus que la pipe qui compte. » « Et c'est dommage. » fit Max Delhomme. « Elle avait du talent. » Il jugeait, avec sévérité, le laisser-aller qui, de la grande artiste, avait fait, petit à petit, un déchet humain. Le plaisir, à ses yeux de calculateur, réglant sa vie méthodiquement, comme une machine à succès, n'excluait pas la volonté. À chaque heure, son emploi. C'est ainsi qu'à 30 ans, il était président du Cercle de la critique littéraire. Et désigné déjà, par le salon Jacquet, comme le Benjamin futur de l'Académie. Monique ne pensait à rien. Un bien-être l'engourdissait, dans lequel la griserie intervenait pour une part, et pour l'autre, le tendre enlacement de Zabeth, contre laquelle elle se pelotonnait. Il y avait, dans son abandon, le réconfort d'une tendresse semblable à celle d'une grande sœur, mêlé à tous les souvenirs de l'adolescence et aussi le ragoût d'une sensation nouvelle, comme une curiosité un peu incestueuse. À l'Olympia, où l'entrée dans une avant-scène fit sensation, la bande fut vite lasse d'être le point de mire de la salle. Un moment distrait par l'apparition d'un phoque parleur, puis d'une chanteuse à voix imitant Damia, tous se ralliaient à la proposition de Ginette. Si on filait, Lady Springfield fut bien, à la sortie, un peu surprise de se voir poussée dans un taxi, dont le chauffeur, sur un billet supplémentaire glissé par Max Delhomme, acceptait de les charger. Mais Ginette expliqua. « J'ai renvoyé ma voiture en disant que Madame d'Entraigues nous ramènerait. Tu ne voudrais pourtant pas que nos chauffeurs sachent que nous allons au Bouic. » Zabeth répéta sans comprendre. « Oh ?» Mais, avec un éclat de rire, Ginette, en lui coupant la parole, redoubla sa stupeur. « Eh bien oui, au claque !»« Au claque ? Au bordel, enfin, puisque tu ne connais pas le français !»« Oh !» s'écria Lady Springfield, avec un accent d'indignation si sincère que tous les quatre se tordirent. « Eh bien quoi ? » riposta Ginette. « C'est le dernier salon où l'on s'amuse. Pas besoin de présentation, ni de chichi. Le naturel en liberté. » Et puis, au moins, là, on n'est pas trompé sur la marchandise. » Zabeth se tourna vers Monique et, nettement, « Rentrons. » Mais celle-ci murmura, « Reste donc, bête. » À observer jusqu'à quel point le sens de la respectabilité et le culte de la théosophie s'aliraient, chez l'anglaise, à sa dépravation soigneusement cachée sous l'hypocrisie religieuse et mondaine, Monique souriait. Amusée. Elle serra la main de son amie. « Allons, ce sera drôle !» Lady Springfield esquissa une dernière défense. « Mais si on nous reconnaissait ?»« Impossible !» trancha Max Delhomme, qui, depuis le matin, avait été mis avec Michel dans la conspiration. « D'abord, là, personne ne peut nous reconnaître, puisque personne ne nous connaît. Ensuite, personne ne nous verra. Et enfin... » Il eut un geste noble. « Il y a la discrétion professionnelle. » Zabeth prit son parti. « J'espère au moins, » fit-elle en menaçant Ginette, « que ton mari... Sois tranquille, il n'arrivera pas avant 1 heure. Il doit venir me prendre en sortant du banquet de l'association de je ne sais plus quoi. Je serai partie. Bah, il n'est pas gênant. On y est. » Le taxi s'était arrêté quelques numéros avant la lanterne rouge qui indiquait... avec une discrétion relative, la maison close. Max Delhomme sonna, parlementa. La sous-maîtresse lança des ordres. On entendit une galopade dans l'escalier. Des portes battirent en se fermant. Précédés par la grosse femme minaudante, les quatre amis montaient avec une petite gêne à l'idée de ces murs qui avaient des yeux. Max, d'un air dégagé, formait l'arrière-garde. Elles ne respirèrent sans arrière-pensée que lorsqu'elles furent installées dans la chambre turque, à défaut de la chambre de glace occupée. C'était une vaste pièce, style Constantinople, place Clichy, dont les lampes au vert de couleur projetaient une lumière mystérieuse sur les tentures épaisses. Des amas de coussins prolongeaient l'immense divan, si profond qu'on s'y pouvait coucher plusieurs, côte à côte, dans la largeur. La sous-maîtresse s'enquit, l'inévitable champagne commandée, du reste de la consommation. Brune, blonde, elle offrit même classiquement la négresse. Mais Max se récusant, Ginette opta, sur le conseil de la matrone, pour Irma, flamande, et Michel, pour Carmen, une espagnole en vrai et de Séville. Zabeth et Monique, désintéressées du choix, s'étaient aussitôt étendues de tout leur long, les mains croisées derrière la nuque en spectatrices. Lady Springfield, le coude enfoncé dans les coussins et haussant le buste par-dessus l'épaule de Monique, surveillait, sans en avoir l'air, chaque geste. La grasse beauté d'Irma et l'élégance nerveuse de Carmen, qui entraient en saluant, désinvoltes dans leurs peignoirs qui aussitôt tombèrent, furent immédiatement sympathiques à son œil de connaissance. Nues, les filles dépouillaient toute la livrée des conditions sociales. Elles revenaient à la simplicité animale, à l'inconscience primitive. Il n'y avait plus dans la chambre turque, hors Zabeth et Monique, qui avaient gardé leurs robes, que des bêtes blanches. En même temps que Carmen et Irma, Ginette, Michel et le beau Max avaient envoyé promener à travers la pièce les vêtements superflus. Zabeth, devant leur jeu, s'enflammait. Déjà, sous les baisers dont la flamande lui parcourait le corps, Ginette, les bras devant les yeux, poussait son habituel roucoulement, tandis qu'à côté d'elle, Carmen et Michel, lovés en cercle avec Max, nouaient étroitement, de bouche à sexe, une ondulante guirlande. Toute l'ivresse de Monique s'était dissipée. Morne, elle contemplait Zabeth, rivée au tressaillement de ses chairs. Et moi, de novice. Que de fois, en des lieux pareils, à des heures de même égarement, Monique les avait-elle aussi caressées? Michel, Ginette, une autre Carmen ou une autre Irma, forme familière, presque anonyme, de l'écœurement toujours étreint, de l'oubli jamais atteint. L'étouffante chaleur de la pièce calfeutrée, un vertige de fatigue en même temps qu'une immense paresse, la clouait inerte sur la couche de strupe, quand, d'un sursaut, elle eût voulu pouvoir se relever, fuir. Mais un visage se penchait au-dessus d'elle. Elle vit luire, avec résignation, l'irrésistible désir aux yeux de Zabeth. Les lèvres goulues s'emparèrent des siennes. Leurs seins se touchaient. Un long corps, sous les étoffes froissées, s'enroula à ses membres là, comme une liane brûlante. Elle soupira, conquise. Évanouissement où Monique éprouvait, avec son plaisir, la dégradante, l'abominable conscience qu'à cette minute achevait de vivre prostituée, jusque dans son souvenir, la dernière image d'elle-même qu'elle eut, jusque-là, conservée intacte. La Monique d'hier, toute la pureté, toute la blancheur encore immaculée de sa jeunesse.